Torchon, c'est l'émission de Joël. Bonjour les amis. Abreuvé de discussions, d'informations, de textes, de dessins, au point que certains ont une overdose de l'après-Charlie, je n'ai pas eu envie de vous prendre la tête aujourd'hui. Je vais donc vous parler des oiseaux. Les oiseaux font partie de notre environnement. Nous les écoutons chanter, les reconnaissons ou pas, et nous les regardons voler, et souvent, ils nous font rêver. Les oiseaux sont les descendants des dinosaures. Près de 10 000 espèces d'oiseaux peuplent tous les milieux du monde. Des glaces antarctiques aux forêts équatoriales et au désert. Cela montre leur adaptation économique, physiologique et comportementale. Leur morphologie est en lien avec la manière de se nourrir. Si l'on observe les oiseaux insectivores, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs espèces et que leur morphologie est différente, adaptée au lieu où ils cherchent leur nourriture. Les pattes de la grive musicienne sont assez larges et vigoureuses pour repousser les feuilles qui jonchent le sol et débusquer les insectes. Le grimpereau des bois et le pic et pêche ont des pattes courtes avec des griffes acérées pour grimper aux arbres et les plumes de leur queue sont rigides pour leur servir d'appui. Le bec des pics, droit et puissant, martèle le bois pour se détacher l'écorce et ensuite ils peuvent prendre les larves. Au contraire, le bec du grimpereau, fin et incurvé, lui permet d'explorer les fissures. Et celui du troglodyte, il est effilé et idéal pour glaner les insectes sous le feuillage du sous-bois. Le martinet, qui se nourrit en vol, a besoin d'un bec court et triangulaire. Tous ces oiseaux peuvent donc chercher leur nourriture sur un même arbre ou à proximité, sans se gêner. Pendant que la grive musicienne se tient au sol, le troglodyte voltige d'un arbrisseau à l'autre, dans le sous-bois. Le grimpereau s'agrippe au tronc, tandis que plus haut, le pic frappe le tronc. Certains oiseaux sont surprenants. Parce qu'ils utilisent des outils pour pouvoir se nourrir, bien sûr. Le vautour d'Afrique prend une pierre dans son bec et la projette sur un œuf d'autruche afin d'en briser la coquille. Et le pinceau, pas le pinceau, mais le pinson pic des Galapagos, tient une épine dans son bec et s'en sert comme d'une sonde pour déloger les insectes qui se cachent sous l'écorce des arbres. Et une étude a été réalisée par des chercheurs de Nouvelle-Zélande sur un corbeau de Nouvelle-Calédonie. Ils ont mis à la disposition de ce corbeau plusieurs gros tubes à essai posés au sol, remplis à moitié, soit d'eau, soit de sable, soit de cailloux, avec un aliment posé à la surface. Et c'était un aliment que ne pouvait pas atteindre l'oiseau. Et puis, il y avait un petit tas de cailloux à disposition à côté. Eh bien, qu'a fait le corbeau? Il a choisi le tube à essai rempli d'eau, a pris un par un des cailloux dans son bec, qu'il a jeté dans le tube à essai, ce qui a fait monter le niveau de l'eau, et il a pu récupérer l'aliment. Pas mal, non, quand même. Il peut aussi utiliser un morceau de bois ou un crochet pour obtenir sa nourriture. Et oui.
«
presque tous les oiseaux font deux repas par jour. L'un le matin, l'autre le soir, et ils restent tranquilles au milieu de la journée, exception pour les rapaces qui ne font qu'un repas. Généralement, l'oiseau mange ce qu'il a rencontré. Quelques grimpeurs, comme le pic, font des provisions. Après le repas, l'oiseau va boire, et s'il y a beaucoup d'eau, il se baigne. Et s'il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il se baigne quand même, mais dans du sable, dans de la poussière. Puis il s'abandonne au repos, et puis il nettoie ses plumes en les lissant, et il digère. Le soir, il se rend à une place déterminée où d'autres individus de son espèce le rejoignent. Certains se serrent les uns contre les autres, comme les moineaux. D'autres sont ensemble, sans contact physique. L'oiseau ne dort que d'un œil. Il a peur des prédateurs. Aussi, il doit le plus souvent dormir perché, ou dans des trous, ou dans de la végétation très dense. Le martinet dort en volant. Il monte jusqu'à 1500 ou 2000 mètres d'altitude. Il donne des coups d'aile pendant 4 secondes et se repose 3 secondes en planant, les ailes bien tendues. La plupart des oiseaux sont très sociables. Certains se regroupent à l'automne pour se préparer à émigrer ou à passer l'hiver. D'autres se regroupent au printemps comme les passereaux ou les rapaces pour défendre leur territoire. Certaines espèces sont sociables toute l'année, plus particulièrement pendant le mauvais temps ou à la période des nids, comme les corbeaux freux, les sternes et les goélands. Au sein d'un groupe, chaque oiseau occupe une place bien déterminée. Il y a ceux que l'on appelle les dominés, et ceux-là ne contestent jamais les dominants, qui sont en général des mâles les plus doués, au comportement et au physique fantastiques. Ainsi, le groupe reste calme. Pas de problème avec cette hiérarchie. Mais observons les oiseaux selon les saisons. C'est l'automne. Plus de la moitié des oiseaux d'Europe, du nord de l'Asie et d'Amérique vont entreprendre un voyage plus ou moins long. Ce sont les oiseaux migrateurs. Ils se dirigent tous vers le sud, loin du froid, des étendues d'eau gelée, de la neige. Les uns voyagent par paire, les autres en bande, plus ou moins nombreuses. À l'exception des espèces les plus faibles, qui ne se déplacent que la nuit, les autres émigrent le jour. Certains vont venir hiberner dans le sud de l'Europe, mais beaucoup séjournent dans le nord de l'Afrique et les zones tropicales. Certains oiseaux peuvent parcourir plus de 10 000 km allés, comme le passereau troquémoteux, pourtant tout petit, 25 grammes, qui part de l'Alaska jusqu'en Afrique de l'Est. Et la sterne arctique peut faire plus de 30 000 km allés. Ils reviennent tous au printemps sur le lieu de leur reproduction. Pendant l'hiver, les oiseaux qui ne migrent pas peuvent tout de même se déplacer pour avoir des conditions meilleures. Pour lutter contre le froid, les oiseaux ébouriffent leurs plumes et emprisonnent ainsi de l'air qui diminue fortement les pertes caloriques. À l'inverse, en été, les oiseaux évitent l'élévation de leur température en appliquant les plumes contre leur corps et, si c'est nécessaire, ouvrent le bec pour augmenter la quantité d'air qui circule dans l'appareil circulatoire. Avant de passer au printemps, on va peut-être se faire une petite pause.
Mais de la magie, mine de rien, dans tout ce qu'il fait. Il a le sourire facile même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui, faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Garde autour de lui avec les yeux de l'amour. Avant que t'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Il fait pas de bruit, il joue pas du tambour. Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il les emmène par-delà les labos, chevaucher les licornes à la tombée du soir. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Comme il a pas d'argent pour faire le grand voyageur, il va parler souvent habitant de son cœur. Qu'est-ce qu'il se raconte? C'est ça qu'il faudrait savoir. Pour avoir comme lui autant d'amour dans le regard. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler.
C'était « Il est libre, Max » sur Radio Escapade, l'émission Coup de Torchon. Et bien sûr, vous avez compris, je vous parle des oiseaux. Donc, nous sommes au printemps. Les oiseaux migrateurs reviennent. C'est la saison des amours et de la reproduction. Et l'on entend dès le lever du jour une multitude de chants d'oiseaux propres à chaque espèce. Les oiseaux ne possèdent pas de cordes vocales. Ils ont un organe de phonation spécialisé qui comporte deux cavités et leur permet de produire des sons très complexes. Ce sont surtout les mâles qui chantent, pour séduire les femelles ou pour marquer leur territoire. Certains oiseaux ajoutent à leur répertoire le chant des autres qu'ils imitent. Il y en a même un, dans le sud de l'Australie, qui imite alors là tous les sons qu'il entend. Ça va de la tronçonneuse, en passant par le déclic de l'appareil, mais parfaitement, hein, on s'y croirait. Il arrive que des couples chantent en duo. Et chez certaines espèces, le chant est inné. Chez d'autres, il est appris par les petits qui imitent leurs parents. Les chants peuvent varier selon l'âge de l'oiseau et selon la progression de la saison des amours. Et ça, c'est très important. Peut-être qu'on va s'écouter un petit chant là, un petit chant de rossignol. En plus des chants, les oiseaux émettent aussi des cris, des appels, qui expriment la menace, la peur, une demande, un avertissement lors de l'envol. Et arrive la saison des amours. Le mâle chante encore plus harmonieusement, superbe mélodie, et il entreprend une parade pour séduire la femelle. Il adopte différentes postures afin d'exposer les couleurs de son plumage. Il peut battre des ailes, relever ou abaisser la queue, se déplacer, sauter, et même apporter à la femelle sa nourriture préférée, alors que ce n'était pas la sienne à ce moment-là. Les mâles rapaces exécutent des figures acrobatiques dans les airs, pendant que la femelle regarde. La reproduction n'est possible que si l'oiseau a atteint sa maturité sexuelle. 1 an, environ chez la majorité des passereaux, mais au bout de plusieurs années chez le goéland argenté. Les oiseaux mâles, comme le coq, n'ont pas de pénis. Le mâle a 2 testicules au niveau des reins qui augmentent de 200 à 300 fois à la période de reproduction et qui vont sécréter les spermatozoïdes. La femelle ne possède que l'ovaire gauche pour produire son ovule. Le droit est atrophié. Le mâle et la femelle ont chacun un cloaque, une cavité, qu'ils juxtaposent pendant l'accouplement durant quelques secondes. Il n'y a donc pas de pénétration. C'est un fait très troublant pour les chercheurs, car l'évolution est censée aller vers ce qui favorise la reproduction la plus efficace. Pourtant, 97% des oiseaux possèdent ces structures génitales atrophiées, sauf les canards, les oies et les autruches qui possèdent un pénis. Tout cela est d'autant plus curieux que les premiers stades de l'embryon montrent une structure susceptible d'évoluer en pénis. Les chercheurs ont mis en évidence un gène qui produit une protéine qui fait s'atrophier le pénis primitif de l'embryon. Mais alors, pourquoi ce gène? Pourquoi l'évolution a privilégié l'absence de pénis chez les oiseaux? Eh bien, vous ne le saurez toujours pas, et moi non plus. Cela reste un mystère. Les chercheurs continuent la recherche. La plupart des oiseaux contractent une seule union pour leur vie durant. Comme il existe plus de mâles que de femelles, les veufs, les jeunes recherchent des femelles qui sont déjà accouplées. Le compagnon habituel de la femelle repousse vaillamment les tentatives du rival. Il peut y avoir des combats et parfois la mort. La femelle alors suit le vainqueur. Le couple cherche une place convenable à l'intérieur de son territoire pour construire le nid. Les anciens couples retourneront à l'endroit où le nid l'an passé avait été construit. Comme vous avez déjà dû l'observer, les nids sont de formes très diverses. On peut les retrouver dans plein d'endroits différents et ils sont confectionnés avec toutes sortes de matériaux. Des mousses, des feuilles, des poils, de l'argile. Et puis ils peuvent être tressés, cousus, ensalivés. Ce sont souvent de véritables œuvres d'art. Dans tous les cas, le nid est caché dans les profondeurs où l'œil ne peut le découvrir. Et si on peut le voir, la position qu'il occupe est souvent inaccessible. À cause des fientes et des bactéries, les nids seront reconstruits chaque année, même si c'est à la même place. Et ils ne serviront jamais à autre chose qu'à pondre des œufs et à élever les petits. La plupart du temps, c'est la femelle qui construit le nid, aidée par le mâle. C'est rarement le contraire. Chez les quelques oiseaux polygames, le mâle est bien moins attentif et s'intéresse pratiquement pas au nid. Quand la femelle oiseau commence à pondre sa température, Pardon, j'étais troublée là par la chanson qui arrivait. Quand la femelle oiseau commence à pondre, sa température s'élève. Elle est fébrile. Elle perd ses plumes au niveau du ventre. Cela permet d'apporter plus de chaleur pour couver les œufs, parce que c'est elle qui couve. Elle n'abandonne ses œufs que pour aller manger. Pendant ce temps, le mâle la remplace. Parfois, la femelle ne quitte pas ses œufs et le mâle vient la nourrir. L'incubation des œufs se fait donc avec un grand soin. La future mère retourne ses œufs chaque jour. Chez certaines espèces, elle les recouvre de sable ou de duvet pendant son absence. Lorsque les œufs éclosent, les petits sortent de leur coquille sans aide. Mais ils sont séchés, réchauffés, nourris, protégés de façon très attentive. Quand les jeunes commencent à voler, les parents les accompagnent pour leur apprendre à chercher eux-mêmes leur nourriture. Ces oiseaux vont vivre longtemps. Si pour la mésange, c'est pendant 15 ans, le moineau, 19 ans, c'est 21 ans pour le corbeau, les grives, les piques et les merles. Mais les oiseaux marins peuvent atteindre l'âge de 43, 45, 49 ans et une albatros de l'aisan, baguée, vient d'atteindre l'âge de 63 ans. Comme les oiseaux sont fidèles à leur lieu de reproduction, il y a de grandes chances que chaque année, et pendant longtemps, vous revoyez vos oiseaux habituels. À moins qu'ils ne soient morts, mangés par quelques prédateurs, les rapaces, les chats, surtout. Mais même les écureuils, parfois, qui peuvent les tuer pour pouvoir leur voler leur nourriture. Sinon, les pesticides dans les insectes et les graines sont responsables de la mort de nombreux oiseaux. Ce peut être également les parasites. Surtout, ils ont quelques poux gris, mais ils arrivent à vivre avec. Par contre, les poux rouges, comme pour les volailles d'ailleurs, les font vraiment dépérir. Car les poux rouges se reproduisent très vite. Ils peuvent hiberner 8 mois sans se nourrir, ou se nourrir dans les fientes, les poussières, les plumes. Ils se cachent dans les fissures des mangeoires, des perchoirs, et se rendent sur les oiseaux dès que l'obscurité est venue. Aussi, si vous avez fabriqué des nids, des mangeoires, des perchoirs, il est nécessaire de bien les nettoyer, sans oublier les fissures. Entre l'élevage très précis des petits et les risques de bactéries, vous comprendrez donc aisément que c'est bien difficile de sauver un oisillon tombé du nid. Si l'oisillon est encore aveugle ou sans plumes, il a peu de chances de survivre et le mieux est de le replacer près du nid. Mais un oisillon que vous trouvez qui commence à avoir des plumes et qui semble en bonne santé, avec beaucoup de soins, vous pouvez le sauver. Le plus important est de le réchauffer, de le rassurer. Pour cela, il est nécessaire de lui confectionner un nid. Ce peut être une boîte de chaussures fermée, percée de petits trous pour qu'il puisse respirer et remplie de chiffons de laine que vous changerez régulièrement pour éviter la prolifération des bactéries. L'oisillon a besoin d'une température d'au moins 25 degrés. La boîte placée dans la semi-obscurité contribuera à le rassurer. Lorsque l'oisillon sera réchauffé et rassuré, pour le nourrir, vous pouvez acheter de la pâtée pour oiseaux insectivores dans toutes les animaleries, mais pas de lait, pas de miettes parce qu'il ne digérerait pas très bien. Et puis c'est inutile de le forcer à ingurgiter quoi que ce soit s'il n'ouvre pas le bec. Mais dès que l'oisillon sera en confiance, il appellera dès qu'il aura faim. Lorsqu'enfin il sera devenu un oiseau avec tout son plumage, Vous pourrez le sortir dans le jardin, dans sa boîte ouverte, sur un côté, afin qu'il puisse faire des tentatives d'envol. Partir, revenir, puis s'envoler définitivement. Mais si vous avez le moindre doute et souhaitez des conseils, vous pouvez téléphoner à la Ligue de protection des oiseaux, la LPO du Languedoc par exemple, dans l'Hérault. C'est ouvert du lundi au samedi de 9h à 16h30 et même le dimanche de 9h à 16h. Et vous pouvez téléphoner. Je vous donne les numéros de téléphone. 06 29 81 66 31 ou par internet le 09 67 18 76 24. Je répète, si vous n'avez pas eu le temps de prendre un petit stylo, donc un petit portable, le 06 29 81 66 31 ou 09 67 18 76 24. S'il s'agit d'un oiseau blessé, vous pouvez le porter directement à Villeveyrac, ville comme ville, Veyrac, V-E-Y-R-A-C, route de Loupian dans l'Hérault. Et puis, ceux qui ont Internet, vous trouverez bien sûr toutes ces informations sur Internet, la Ligue de protection des oiseaux du Languedoc. Voilà, mes amis, coup de torchon se termine. Alors, je n'ai pas très beaucoup d'infos là. On va demander à notre chère Anouk si elle a des infos sur Avolo pour savoir un petit peu ce qu'il y a après notre émission. Donc,
il est question de Charlie Hebdo. Voilà.
Bon.
Façon romain, façon Avolo.
Eh bien, alors voilà. Eh bien, vous savez tout, parce que moi, je n'avais pas l'info. Donc, on se quitte avec une chanson cool, Big Get Plane de Lady of Sunshine. Et à dans 2 semaines. Et surtout, gardez la forme.
my arms. Gonna take you away from home. Gonna hold you, gonna kiss you in my arms. Gonna take you away from home. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Yeah, yeah. Yeah.
C'est encore moi. Eh oui, coup de torchon, on pensait que c'était fini, mais j'ai oublié une info absolument essentielle et qui se passe à Ganges. Eh bien, parce que nous avons tout ce qu'il faut, tout près, un hôpital faune sauvage et qui s'appelle Goupil, G-O-U-P-I-L, connexion, comme une connexion. Et je vous donne quand même le numéro. 06 08 69 22 26 et sur internet, eh bien c'est Goupil Connexion tout attaché, n'oubliez pas connexion 2N, .org, et vous pourrez amener vos petites bêtes tout près et ne pas aller tout dans le fin fond de l'Hérault. C'est quand même sympathique ça, et quand je pense que j'allais oublier, voilà, c'est réparé. À bientôt. Au revoir.
À volo. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans À volo, promesse de Gascon, je ne vous parlerai pas des PCB comme annoncé à la dernière chronique. Ce sera un coup de gueule, peu en rapport avec l'eau, mais en lien avec les événements tragiques du 7 janvier dernier, pour marquer le coup et pour évacuer ma colère. La chronique diffusée le 9 janvier avait été enregistrée bien avant la tuerie et de toute façon j'aurais bien été en peine de réagir à chaud. Alors j'ai cherché. J'aurais pu parler des guerres de l'eau, en particulier au Moyen-Orient, pourquoi pas. J'aurais pu parler de l'usage de l'eau dans les conflits, pourquoi pas. Du rôle des sécheresses au Proche-Orient, lesquelles auraient participé aux déséquilibres qui ont entraîné les printemps arabes. Ouais. Bref, je ne savais pas par quel bout commencer cette chronique. J'allais finalement traiter des PCB quand lundi dernier... Lundi dernier, dans le cadre d'une recherche bibliographique, je me rends sur le site web du Plan Bleu. Le Plan Bleu, qu'est-ce que c'est ? C'est une association créée à la fin des années 70, après la Convention de Barcelone de 1976. Cette Convention de Barcelone visait à améliorer la qualité du milieu marin méditerranéen. Cette Convention de Barcelone aboutira au cadre du plan d'action de la Méditerranée porté par le PNU, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, le PNU qui participera après à la création du Plan Bleu. Alors pour rappel ou pour information, le PNU est un organe de l'ONU, l'ONU dont l'objectif prioritaire est la paix dans le monde. La protection de l'environnement est un des nombreux outils utilisés par l'ONU pour parvenir à cette paix. Il faut garder ça en mémoire pour plus tard. Le Plan Bleu est basé à Nice-Sophie Antipolis et possède une antenne à Marseille. Et ses objectifs dépassent aujourd'hui le milieu méditerranéen et s'attachent au développement durable des pays du pourtour méditerranéen en favorisant les partages d'expériences nord-sud et sud-sud. Autrement dit, ce qui marche dans un pays est transposé ailleurs. Je me rends donc sur le site web de cette ONG. Mais au lieu de trouver la page d'accueil habituelle, je me retrouve avec un bandeau rouge, un bout de tête de mort et la phrase « Musulman et je suis pas Charlie ». Avec la version anglaise, des fois que la traduction Google est foirée, « I am Muslim and I'm not Charlie Pédo ». Charlie Pédo et pas Hebdo. Bah oui, on peut être satire sans être pédo. Dans la foulée, je reçois une confirmation de la CCI de l'Hérault qui nous enjoignant de contrôler la sécurité de nos sites web, parce qu'apparemment il y a une grosse attaque des sites français qui continue d'ailleurs à l'heure où vous m'écoutez. Mais bon, quand même, s'attaquer au plan bleu, faut vraiment être con. S'attaquer au plan bleu, c'est mettre dans un même panier Charlie Hebdo, la France, ses représentations, ses administrations, son modèle. Et de notre côté, des ONG dont le but premier est d'aider des pays à s'en sortir. S'en sortir, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement donner aux peuples le choix de leur modèle de développement grâce à la mise en œuvre de solutions qui ont fait leur preuve ailleurs. En l'occurrence ici, des solutions liées aux enjeux environnementaux et de développement durable. Il ne faut pas oublier que le développement durable est à la base un projet de développement territorial, quelle que soit la taille de ce territoire, de la commune jusqu'à l'État, qui inclut les spécificités de ce territoire. Je ne parle pas nécessairement de notre modèle de développement. Par développement, j'entends simplement sortir des peuples du marasme économique, environnemental, social, sanitaire et j'en passe dans lequel ils sont. Donc le plan bleu vise à développer les connaissances sur l'environnement méditerranéen. Il partage les savoirs acquis sur les rives nord et sud de cette mer. Il travaille avec et pour tous les pays qui bordent la Méditerranée, dont certains sont connus pour leur instabilité politique. Libye, Égypte, Liban, Palestine, Syrie et les pays du Maghreb. Alors s'attaquer au plan bleu, c'est n'avoir rien compris aux politiques actuelles menées dans certains pays en difficulté. Bon, je ne dis pas que les ONG font tout un travail philanthropique parfait, que toutes leurs actions produisent les effets escomptés, certes non. Mais quand même, pirater le site d'une ONG qui partage des savoirs, qui est en lien direct avec l'ONU, quel est le but ? Bon, accessoirement, d'autant qu'un coup de fil à l'hébergeur du site web et c'est fini en quelques heures. Bon, à moins que l'action soit un peu plus réfléchie qu'il n'y paraît. Bon. Certains auteurs font en effet un parallèle entre l'avancée de la savane vers le sud du Sahel et l'avancée de l'islam et des fondamentalismes qui lui sont associés. Bon, certes, on s'éloigne du champ d'action et du territoire d'action du plan bleu. Bon, j'avoue que j'ai pas trouvé d'exemple en Tunisie ou en Syrie. Et puis, si c'est pas le plan bleu, ce serait une autre ONG, non, qu'importe. L'avancée du Sahel résulte de quoi? Pour beaucoup, de la déforestation. En déforestant, ce sont des écosystèmes entiers qui disparaissent. Et moins de forêts, ça signifie moins d'évapotranspiration, autrement dit moins d'eau libérée par les plantes. Donc moins d'humidité ambiante, donc une flore qui va évoluer vers des essences moins tropicales, et de fil en aiguille, des ressources alimentaires qui vont évoluer généralement en se raréfiant. Et c'est là-dessus que les fondamentalistes font leur beurre. L'Occident appauvrit l'Afrique. Le catholicisme est une religion à connotation occidentale, mais pas l'islam. Bon, avec les conséquences que l'on sait, que l'on a vues récemment, il suffit de voir ce qui se passe au Nigeria ou au Cameroun, avec entre autres des sectes comme Boko Haram. Alors pour s'attaquer au site d'une ONG qui tente d'améliorer les choses, ça demanderait une vision globale et sur le long terme de leur projet de djihad. Et là-dessus, j'ai des gros doutes. Bon, je crois plus en un opportunisme de circonstances. Alors oui, faut vraiment être con. La prochaine fois, promis, je vous parlerai des PCB. Et en attendant, je vous laisse en compagnie de Pierre Desproges qui, en 1982, face à Jean-Marie Le Pen, a déclaré « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ».
Française, Français, Belge, Belge, extrémiste, extrémiste, mon président français de souche, mon émigré préféré, mesdames et messieurs les jurés, Mademoiselle Le Pen, Mademoiselle Le Pen, Mademoiselle Le Pen, Madame Le Pen, public chéri, mon amour. Comme j'ai eu l'occasion de le démontrer ici même récemment,
elle est marre.
Avec un brio qui m'étonne moi-même, malgré la haute estime en laquelle je me tiens, depuis que je sais qu'il coule en mes veines plus de 90% de... Vous allez rire. Plus de 90% de sang arien et moins de 3 grammes de cholestérol. Ah, les débats auxquels vous assistez quotidiennement, mesdames et messieurs, ne sont pas ceux d'un vrai tribunal. En réalité, je le répète, ceci est une émission de radio. Qui pisait une émission de radio dite comique, ou au moins qui tente de l'être. Alors, le rire, parlons-en, et parlons-en aujourd'hui, alors que notre invité est Jean-Marie Le Pen. Car la présence de M. Le Pen en ces lieux, voués plus souvent à la gaudriole parajudiciaire, pose problème. Les questions qui me hantent, avec un H comme dans Halimi. Les questions qui me hantent sont celles-ci. Premièrement, peut-on rire de tout ? Deuxièmement, peut-on rire avec tout le monde ? À la première question, je répondrai oui sans hésiter, et je répondrai même oui sans les avoir consultés, pour mes corréligionnaires en subversion radiophonique, Louis Rego et Claude Villers. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire sacrilège blasphématoire que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, à mon avis, on peut rire de tout, on doit rire de tout. De la guerre, de la misère, et de la mort. Au reste, est-ce qu'elle se gêne, la mort, elle, pour se rire de nous? Est-ce qu'elle ne pratique pas l'humour noir, elle, la mort? Regardons s'agiter ces malheureux dans les usines. Regardons gigoter ces hommes puissants, boursouflés de leur importance, qui vivent à 100 à l'heure. Alors ils se battent, ils courent, ils caracolent derrière leur vie, et tout d'un coup ça s'arrête, sans plus de raison que ça n'avait commencé. Et le militant de base, le pompeux PDG, la princesse d'opérette, l'enfant qui jouait à la marelle dans les caniveaux de Beyrouth, toi aussi à qui je pense et qui a cru en Dieu jusqu'au bout de ton cancer, tous nous sommes fauchés un jour par le croche-pied rigolard de la mort imbécile, et les droits de l'homme s'effacent devant les droits de l'asticot. Alors, je vous le demande, mesdames et messieurs les jurés, quel autre échappatoire que le rire, sinon le suicide, poiloride. Donc, on peut rire de tout, y compris de valeurs moins sacrées, comme par exemple le grand amour que vit actuellement le petit roi inamovible de la défense passive ici présent. Son grand amour s'appelle Marika, c'est la seule arienne au monde qui peut le supporter. Ce qu'on comprendra aisément quand on saura qu'il s'agit de la poupée gonflable en peau de morue suédoise que sa tata Rodriguez lui a envoyé de Lisbonne en paquet fado. Deuxième point, peut-on rire avec tout le monde? C'est dur. Personnellement, il m'arrive de renacler à l'idée d'inciter mes zygomatiques à la tétanisation crispée. C'est quelquefois au-dessus de mes forces dans certains environnements humains. La compagnie d'un stalinien pratiquant, par exemple, me met rarement en joie. Près d'un terroriste hystérique, je pouffe à peine. Et la présence à mes côtés d'un militant d'extrême droite assombrit couramment la jovialité monacale de cette mine réjouie dont je déplore en passant, mesdames et messieurs les jurés, de vous imposer quotidiennement la présence inopportune au-dessus de la robe austère de la justice sous laquelle ne vous raconte pas. Attention, ne vous méprenez pas sur mes propos, mesdames et messieurs les jurés. Je n'ai rien contre les racistes, c'est le contraire. Comme dirait mon charmant ami le brigadier Georges Rabol, qui joue du piano ici tous les jours et qui, je le précise à l'intention des auditeurs qui n'auraient pas la chance d'avoir la couleur, est presque aussi nègre que pianiste. Dans une journée particulière, le film d'Ettore Scola, Mastroianni, poursuivi jusque dans son sixième par les gros bras mussoliniens, s'écrit judicieusement à l'adresse du spadassin qu'il accuse d'antifasciste: vous vous méprenez, messieurs, ce n'est pas les locataires du sixième qui est antifasciste. C'est les fascistes qui est anti-locataire du sixième. Les racistes sont des gens qui se trompent de colère, disait, avec mansuétude, le président Senghor, qui est moins pianiste, mais plus nègre que Georges Rabol.
Mais Rabol est français, lui.
Oui, c'est toujours ça. Pour illustrer ce propos, je ne résiste pas à l'envie de vous raconter une histoire vraie, monsieur Le Pen. Cela nous changera des habituelles élucubrations névropathiques inhérentes à ces regrettables réquisitoires. Je sortais récemment d'un studio d'enregistrement accompagné de la pulpeuse comédienne Valérie Mérès, avec qui j'aime beaucoup travailler, non pas pour de basses raisons sexuelles, mais parce qu'elle a des nichons magnifiques. Nous grimpons dans un taximètre sans bien nous soucier du chauffeur, un monotone quadragénaire de type romorantin, coupe rosée de frais, et poursuivons une conversation du plus haut intérêt culturel, tandis que le taxi nous conduit vers le Châtelet. Mais, alors que rien ne le laissait prévoir, et sans que cela ait le moindre rapport avec nos propos, qu'il n'écoutait d'ailleurs pas, cet homme s'écrie soudain « Ah ben moi, les Arabes, je peux pas les saquer !» Ignorant ce trait d'esprit sans appel, ma camarade et moi continuons notre débat. Pas longtemps. 30 secondes plus tard, ça repart. Eh ben moi, les Arabes, vous comprenez, c'est pas des gens comme nous. Moi qui vous parle, j'en ai eu comme voisin de palier pendant 3 ans, eh ben merci bien. Ah, les salauds, hein. Alors leur musique à la con, merde. Hein. Alors vous me croirez si vous voulez, hein. C'est le père qui a dépucelé la fille aînée. Ah ça, c'est comme ça, hein. C'est les Arabes. Alors ce coup-ci, je craque un peu, je me retourne et je dis, monsieur, je vous en prie, mon père est arabe. Ah, bon. Ah, remarquez, votre père, je dis pas, hein. Ah, monsieur... Il y en a des instruits, hein. Et puis vous, on voit bien que vous êtes propre et tout. D'ailleurs, je vous ai vu à Belmar. À l'arrière, brinque-ballé entre l'ire et la joie, nous voulons encore ignorer. Hélas, la pause est courte. Oui, votre père, je dis pas, hein. Mais alors, les miens d'arabe, pardon, hein. Alors, ils avaient des poulets vivants dans l'appartement, monsieur. Hein. Et vous savez ce qu'ils leur faisaient? Ils leur arrachaient les plumes rien que pour rigoler. Et la cadette, je suis sûr que c'est lui aussi qui a dépuiselé, hein. Ça, je suis sûr. Ça s'entendait, alors. Mais votre père, je dis pas, hein. Et puis de toute façon, les Arabes, c'est comme les Juifs, ça s'attrape que par la mer. Cette fois, je craque vraiment. Ma mère est arabe, monsieur. Ah bon, oh là là, la Concorde à ce temps-là, il n'y a pas moyen. Hein. Oh là, et t'avances, ces connards. Ah mais c'est vert, mais il est con, hein, retourne dans ton 77, et connard. Ah, voyez-vous, monsieur, reprend-il à mon endroit, moi mon derrière. Voulez-vous que je vous dise, il n'y a pas que la race, il y a l'éducation. C'est pour ça que votre père et votre mère, je dis pas. D'ailleurs, je le dis parce que je le pense, vous n'avez pas une tête d'arabe. Hein, ça. Et ça, c'est, croyez-moi, c'est l'éducation. Remarquez, vous mettez un arabe à l'école, hop, il joue du couteau. Et il empêche les Français de bosser, hein, ça. Ah, c'est vrai, ça. Bon, alors voilà, 67 rue de la Verrerie, nous y sommes. Ça nous fait 32 francs. Je lui donne 32 francs. Ah ben, vous n'êtes pas généreux, vous, alors, elle pour liche. Ah, c'est comme ça, me venger, j'en fin. Je ne donne pas de pourboire au blanc. Jamais. Alors cet homme, tandis que nous nous éloignons vers notre sympathique destin, baisse sa vitre et me lance « Crève donc, eh, sale bico. » À moi qui fais ma première communion à la Madeleine. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs les jurés. Voilà un homme qui se trompait de colère. Le temps qui m'est imparti, socialiste mais pas national, c'est toujours ça de prix. Le temps qui m'est imparti, ainsi que la crainte de quitter mon nez rouge pour sombrer dans la démonstration politico-philosophique, m'empêche de me poser avec vous la question de savoir si ce chauffeur de taxi était de la race des bourreaux, ou de la race des victimes, ou des deux, ou plus simplement de la race importune et qui partout foisonne, celle dénoncée par Georges Brassens, des imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire, contre les étrangers tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou, pour mourir à la guerre, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Aussi bien laisserai-je maintenant la parole à mon ami Louis Régaud, qui poussa naguère ici même le plus troublant des cris d'alarme. Louis Régaud a dit ici, les chiffres sont accablants, il y a de plus en plus d'étrangers dans le monde.